La loi de la ministre de mon ancienne camarade de classe, Kathleen Wild, que j'aimais bien, mais là, je l'aime pas mal moins. J'aime pas du tout sa loi, son projet de loi. Et d'ailleurs,
toi, t'aurais voulu quoi? La pleine laïcité? Aucun signe religieux?
Aucun signe religieux. Dans la fonction publique, dans l'État. L'État, à mon avis, doit être neutre. J'ai pas envie d'aller me faire juger si jamais je me retrouve en cour par un juge ou une juge avec un voile. Ils disent que c'est un cas extrême, mais écoute, ça ouvre la porte à ça. Et je veux même pas aller me faire servir, je sais pas moi, à la RAMQ, parce que il y a toute l'histoire, et José en a parlé aussi dans son blog et tout ça, il y a toute l'histoire de la liberté de religion, c'est pas la seule liberté qu'il y a. Il y a aussi liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de conscience et tout ça. Alors moi, je me mets à la place d'un fonctionnaire de l'État qui doit rencontrer du public et qui est athée ou qui ne croit pas en Dieu et tout ça. Et alors lui, est-ce qu'il aurait le droit? D'ailleurs, c'est ça que je vais probablement me lancer dans la production de macarons. Et les macarons, ça va être ou bien non, Dieu n'existe pas, ou bien non, je ne crois pas en Dieu. Et est-ce qu'il peut mettre ce macaron-là, lui, quand il va servir le public au nom de ses croyances religieuses? Ça ouvre la porte à toutes sortes d'affaires. Alors voilà.
Vous êtes d'accord avec Nathalie Petrovski? Vous avez l'air absolument. Absolument. Allez-vous l'enrôler dans votre partie?
Non, ou moi, je m'enrôlerai dans le sien.
Mais, on va produire des macarons. Okay? Et donc, oui, vous êtes d'accord avec moi aussi?
Et je vais le porter parce qu'effectivement, moi, je suis extrêmement déçu du projet de loi de la ministre parce qu'encore une fois, c'est une tentative de faire semblant de régler quelque chose. Et je me dis, quand on s'attaque à un problème, ou on va au fond des choses, ou on le règle, ou alors on s'en occupe pas. Mais on peut pas avoir cette façon-là timorée d'embarquer, de reculer, de faire un pas en avant, un pas de côté. C'est des questions sociétales fondamentales, puis on peut pas valser avec ça. Il faut qu'on définisse clairement, nous comme société, ce qui est acceptable, ce qui l'est pas. Et l'État, il est laïque. En fait, les institutions publiques, pour moi, elles sont laïques. Et là-dessus, je pense que la France a légiféré, ouais. a été très claire dans... Et puis, la France n'est pas à feu et à sang, là, que je sache. Là.
Roger Frappier, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là?
Moi, ce qui me désole là-dedans, c'est qu'on a fait une commission Bouchard-Taylor, qu'on a analysé tout ça en profondeur, qu'il y a eu un rapport qui a été émis, et pas de suite. Et ce sont ensuite les problèmes qui génèrent, dans l'urgence, une réponse. Alors, pourquoi passer tant de temps à avoir dérangé tant de monde pour faire un rapport si on ne lui donne pas de suite immédiatement par un projet de loi qui est équilibré et qui est basé sur les propos de tout le Québec qu'on a sondé? On répond toujours par l'urgence. Moi, c'est cette façon-là de légiférer au niveau de l'État.
Moi, je dirais la panique plus que l'urgence.
La panique, exactement. On attend qu'il y ait un cas qui est toujours un cas, de toute façon, qui n'est pas, c'est pas une surprise. Je veux dire, les gens veulent toujours tester le système et le pousser le plus loin possible et essayer. Moi, ce qui me désole là-dedans, je suis rentré hier soir de Los Angeles, il y avait une femme qui était voilée à l'aéroport. On ne voyait que les yeux. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est son mari qui, lui, est habillé comme moi. Puis qui ne peut même pas porter de bas. Et puis, avoir la chemise ouverte. Et puis, alors, tout d'un coup, on a devant nous deux poids, deux mesures. Et c'est les deux ensemble qui me dérangent.
José Legault.
Bien, c'est sûr que le projet de loi qui fait quoi? Deux pages, sans l'improvisation à plein nez, sans... On a vu aussi avec toute cette histoire de la femme en niqab au Cégep Saint-Laurent. Et le problème fondamental, il y a beaucoup de problèmes dans ces deux pages. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'en deux pages, j'ai réussi à créer autant de problèmes. Quand même, il faut le faire, là. Puis de dire une chose et son contraire, tout en ayant l'air de rien faire, ils font ce qu'ils font tout croche. Deux choses qui me dérangent. Cette espèce de focus sur le niqab et la burqa. Moi, pour moi, c'est une diversion politique.
Oui.
Bon, alors, c'est pas ça le problème. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est est-ce qu'on veut avoir des institutions publiques qui sont pas seulement neutres, mais laïques. Et pour qu'elles soient laïques, il faut, entre autres choses, que les agents de l'État non seulement ne porte pas de signes religieux ostensibles, mais maintenant, il ne faut plus dire ostentatoire, il faut dire ostensible. Et parce que, comme je l'expliquais dans mon blog, c'est que la liberté de religion, en interdisant pas le port de signes religieux, on lui donne un statut particulier comme si ça avait une supériorité morale par rapport aux autres libertés fondamentales. Et je donne comme exemple, justement, Si un agent de l'État ne peut pas porter un macaron qui dit PQ ou PLQ ou pour l'euthanasie, contre l'euthanasie, pour la légalisation de la prostitution, etc., etc., donc il ne peut pas exercer sa liberté de pensée et d'opinion qui sont des libertés fondamentales dans les chartes, pourquoi est-ce que cet agent-là, sa liberté d'expression de sa religion, serait lui, ça, il pourrait l'exercer, puis ça, ce serait supérieur à tout le reste. Alors, on ne s'est pas posé ces questions-là. Le gouvernement ne veut pas se poser ces questions-là. Mais moi, je vous dis, ce projet de loi-là, c'est un nid de vipère. C'est pas fini. Et on est en train de s'acheter bien du trouble, je trouve, pour un gouvernement qui fait rien. Il réussit à, malgré tout, le faire tout croche.
Nathalie Petrovski, prochain sujet.
Oh mon Dieu, ben là, mon Dieu.
Gros contrat ce matin.
Est-ce qu'on on peut continuer dans la suite avec Madame Courchesne et ses calendriers? Ces calendriers où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de Noël, il n'y a plus de Pâques, il n'y a plus de... Et on fait ce qu'on veut. Ben, si c'est comme, je trouve que c'est une semaine un peu vraiment déprimante. Un peu lourde et déprimante. J'entendais, c'est-tu Mathieu Bock-Côté qui disait c'est l'inversion du principe d'intégration. Tu sais. En principe, il devrait s'intégrer à nous. C'est le contraire. Enfin, bon, alors une autre fois, cette histoire de calendrier où il n'y a plus rien, où on peut faire ce qu'on veut, si je comprends bien, ben là, encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord.
Et vous pensez probablement tous comme Nathalie là-dessus.
Ben, c'est parce que je pense que sur cette question-là, sans rentrer dans les détails, c'est un peu plus... C'est obscur aussi. C'est beaucoup de confusion parce que, en effet, il y a quand même, comme l'a dit la ministre, il y a une loi des normes du travail. Oui. Il y a des congés fériés statutaires. Ben on ne peut pas éliminer Noël, on ne peut pas éliminer Pâques.
Ni la Saint-Jean-Baptiste.
Qui, en fait, ni la fête nationale.
La fête nationale.
Puis, Pâques et Noël qui ont quasiment perdu aussi leur symbolique religieuse chrétienne d'une certaine manière, même Pâques de manière paradoxale. Ça, c'est un petit peu plus compliqué.
Si le Noël, problème, c'est la fête du sapin maintenant. C'est ça, exactement. Ça va être la fête de quoi?
Du chocolat.
Non, qu'est-ce que vous feriez avec ça?
La fête du chocolat.
Ben, du lapin.
mais sur la question de la proposition de la ministre, ce que je trouve là-dedans profondément choquant, c'est qu'on se sert de toutes sortes de prétextes, de bonnes intentions, parce qu'il y a effectivement là-dedans des arguments, notamment pour la formation continue, la formation professionnelle, c'est des arguments qui se tiennent. Mais pourquoi fallait-il déréglementer partout, notamment au niveau du secondaire, alors que dans le fond, on sait très bien que l'objectif, c'était d'accommoder les écoles qui ont des statuts particuliers, des statuts religieux. Et personnellement, je considère que l'enseignement de la religion ne relève pas de l'État, ne relève pas de l'école. Alors, quand on est rendu à imposer à la majorité un calendrier qui ne répond absolument pas à nos besoins, à nos attentes, pour desservir une minorité et une minorité qui se sert d'une institution pour faire quelque chose où c'est pas du tout la place. Je veux dire, l'enseignement religieux, ça se fait à la maison, ça se fait à l'église, ça se fait pas à l'école.
Alors, tout le monde se rallie à Éric Kerr là-dedans?
Non, pas moi. Mais je trouve que les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit le bouddhisme, la religion catholique, l'islam, les religions doivent s'enseigner. Je veux dire,
l'histoire des religions?
L'histoire des religions,
Mais
en même temps, je veux dire, l'histoire des religions doit s'enseigner, les différentes cultures, je veux dire, il faut...
Nous
n'avons
pas
qu'une vie, physique, il y a quand même d'autres choses qu'il faut étudier dans la vie. Mais tout d'un coup, c'est comme si le discours, dans le discours actuel... On assumait, l'Église catholique n'enseigne plus la religion catholique. Je veux dire, on va pas à l'Église le dimanche matin dans le sous-sol pour être capable d'avoir des cours de religion catholique. Il y en a d'autres qui le font.
Mais je ne m'ennuie pas de ça,
mais ça va toujours faire partie de la culture humaine, l'enseignement des religions. Donc, il faut trouver une façon.
Mais tu sais quoi, je ne sais plus, tu t'appelles René, Roger. Mon fils, je l'ai mis à l'école. Il a pris des cours de religion. Mais on est dans une société où. Je ne sais pas ce que ça a donné, ces cours de religion. Ça n'a rien donné. Il connaît, tu sais, bon, peut-être l'histoire de la multiplication des pains, puis ça s'arrête à peu près là, tu sais. On n'est pas des sociétés pratiquantes, on n'est pas des sociétés religieuses. Alors, bon, moi, je voulais qu'il ait une culture, je voulais qu'il ait une culture religieuse, mais je me rends compte que, donc, il a pris des cours de religion.
C'est une démarche qui est personnelle. Ouais. Vous dites, enseigner l'histoire de la religion, l'histoire avec un grand H doit s'enseigner. Point. Et la religion fait partie de l'histoire et dans ce sens-là où, effectivement, on doit pouvoir l'enseigner. Mais encore faut-il le faire au bon niveau. Je pense pas que l'histoire de la religion, ce soit la première chose à enseigner à des élèves du primaire ou du secondaire, premièrement. Mais, et deuxièmement, la religion, la pratique religieuse, c'est une démarche qui est personnelle. La religion, la morale, ça relève, à mon avis, de la responsabilité des parents, d'abord, et ensuite de la société qui a certaines valeurs, évidemment, qu'on partage. Mais il y a des endroits pour faire l'enseignement de la religion. Puis je vous dis, je trace une ligne très claire entre l'enseignement de l'histoire, ce dont vous avez parlé. Mais c'est pas l'histoire qu'on enseigne à l'école. C'est la pratique religieuse. Puis aujourd'hui, on met des jeunes esprits face à des concepts qu'ils comprennent pas, qui sont pas capables d'analyser. Parce qu'ils n'ont pas le bagage pour le faire. À ce moment-là, est-ce que c'est vraiment de l'enseignement?
Moi, je comprends ce que veut dire M. Frappier. C'est sûr que ça fait partie de l'histoire et ça doit être enseigné. C'est un élément formateur des derniers 2000 ans, au moins, c'est pas plus. Donc, oui, c'est sûr. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'une ministre qui, finalement, a raconté des histoires à la population. Essaie de lui faire croire, mais la population ne la croit pas, qu'elle a chambardé tout le calendrier scolaire de tout le Québec au complet, de tout le régime pédagogique pour essayer de donner des armes pour combattre le décrochage scolaire. On sait que c'est pas ça. Le milieu scolaire l'a pas demandé, l'a jamais demandé. On sait qu'elle l'a fait pour répondre à un groupe de pression, nommément une poignée d'écoles privées ultra-religieuses juives. Ça aurait pu être ultra-religieux musulmans, ultra-religieux catholiques, etc. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et au niveau politique, ça ne fait qu'ajouter à cette perte de lien de confiance entre la population et le gouvernement parce que ce gouvernement-là raconte des histoires.
Roger, en conclusion, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été bien compris dans ce que vous avez dit?
Oui, absolument. Bon.